Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna de La Marseillaise, pour évoquer avec elle la une de cette Marseillaise qui paraîtra dans les kiosques ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une avec le dossier de La Marseillaise, la mobilisation pour les hausses de salaire. A-t-elle marché cette mobilisation ?
Alors, cette mobilisation, disons que c'est un mouvement, on va dire une colère sourde de fond qui commence à avoir des manifestations dans tous les sens du terme qui se sont déployées, notamment ce mardi.
Oui.
Nous, on a concentré notre dossier, évidemment, en donnant la parole à des travailleurs, à des salariés, mmh. mais aussi en essayant de comprendre pourquoi il y a urgence aujourd'hui de mettre dans le débat public l'enjeu des hausses de salaire.
Mmh.
Donc, dans ce dossier, nous avons notamment l'interview d'un économiste, Michael Zemmour, hein, mmh. qui nous explique notamment la grande différence entre la prime et le salaire.
Eh oui.
Alors, ensuite, on a un sujet aussi qui est extrêmement important. C'est la question de l'eau et de l'accès à l'eau,
oui.
et pour les Montpelliérains, mais aussi pour tous les habitants de la métropole de Montpellier.
Mmh.
Donc la collectivité, donc la métropole de Montpellier, a annoncé qu'elle investit, c'est un chiffre très important, 200 millions d'euros pour sécuriser la ressource en eau.
Oui.
Donc ça va être un double chantier. Il y a à la fois le lancement de la rénovation du réseau d'eau potable,
ouais.
et la construction d'une usine d'eau potable, Vallée d'eau, qui est située à Verchamps. Donc on a le vice-président de la métropole délégué à l'eau et à l'assainissement, qui est René Revol, le maire de Grabès,
mmh.
qui nous explique tout le contenu de ce plan,
mmh.
la révolution de l'eau dans la métropole de Montpellier. Nous avons aussi consacré un article assez conséquent aux difficultés de la Banque alimentaire de l'Hérault,
oui.
qui tire la sonnette d'alarme parce que la flambée des prix actuels de l'énergie met vraiment en danger son activité. Alors on rappelle que l'activité de des banques alimentaires, c'est de fournir aux associations les denrées de l'aide mmh. Alimentaire aux habitants et aux populations les plus précaires et les plus pauvres. Hein.
Mmh.
Donc voilà, ils expliquent pourquoi et ils lancent un véritable cri d'alarme en demandant à ce qu'ils fassent aussi partie, qu'ils bénéficient du bouclier tarifaire pour payer l'énergie.
Mmh.
On reste dans le domaine, on va dire, de la solidarité, puisqu'on a une association qui s'appelle La Cloche, qui est arrivée à Montpellier là maintenant, la mi-octobre.
Oui.
Alors, cette association, elle permet aux personnes sans domicile, sans abri, d'être accueillies dans des commerces pour accéder à des services du quotidien. Et elle propose aussi à leurs clients, donc aux habitants, d'aider ces personnes qui sont en grande difficulté en prépayant des produits. Ça peut être un café, ça peut être un livre. Et donc c'est vraiment une démarche à la fois pour rendre service et pour créer du lien social.
D'accord.
C'est ça qui est très important aussi dans la démarche de l'association La Cloche, qui nous explique tout ça dans la Marseillaise.
Mmh.
Et pour côté culture, on a un coup de cœur pour le festival 22 Vla Georges,
oui.
qui évidemment Georges Brassens, hein, il va se dérouler à 7 à partir du 22 octobre jusqu'au 29.
Mm-hmm.
C'est un événement qui célèbre évidemment dans la joie, la bonne humeur et la chaleur humaine, les chansons de Georges Brassens. Alors, pourquoi du 22 au 29 ? Parce que Georges Brassens est né le 22 octobre 1921 et malheureusement, il est décédé un 29 octobre en 1981. Il était à peine âgé de 60 ans. Mais ce festival, c'est un festival heureux qui montre que les chansons et les textes de Georges Brassens sont immortels.
Eh oui. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
À la une de cette Marseillaise, un gros dossier que vous présentez, la mobilisation pour les hausses de salaire. C'est donc le dossier de cette semaine de la Marseillaise à paraître en kiosque ce vendredi, on le rappelle.
Oui, alors depuis quelques semaines avec les mobilisations des salariés, notamment dans les raffineries et les dépôts de carburant, oui. La question de la hausse de salaire est vraiment dans le débat public. Hein. Donc on a décidé donc d'y consacrer notre dossier. Mmh. On a aussi eu cette journée de mobilisation après celle du 29 septembre. Hein, vous vous rappelez, oui. Il y en a eu une le 18 octobre, là, très récente, mmh. À l'appel de plusieurs syndicats, à la fois pour exiger des hausses de salaire et pour défendre le droit de grève, qui est le seul moyen d'agir à la disposition des salariés. Mmh. On donne donc la parole à des salariés de différents profils. Hein. Il y a des enseignants, il y a des aides à domicile. Oui. Et on est allé un peu plus loin aussi pour comprendre pourquoi c'était très important pour ces travailleurs d'avoir des hausses de salaire et pas des primes. Hein. On se souvient que la prime, ça reste quand même dans le débat aussi quelque chose qui est beaucoup, notamment la prime Macron, qui est mise en avant par le gouvernement et par les entreprises qui peuvent se permettre de la verser. Mmh. Donc on a interrogé Michaël Zemmour, qui est un économiste. Alors il travaille à l'Université Paris 1 Sorbonne, oui. Et aussi au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. C'est un spécialiste aussi du système de protection sociale. Alors pourquoi lui? Parce que lui va nous expliquer la différence justement entre le salaire et la prime. Mmh. Elle est très importante. Il nous explique que la prime Macron, par exemple, ce n'est pas du salaire. La première différence, c'est que la prime, elle peut disparaître d'une année sur l'autre.
Et oui.
Elle est donc temporaire. Et en revanche, on ne peut pas revenir sur une augmentation de salaire.
Et puis, elle n'est pas obligatoire aussi, cette prime.
Elle n'est absolument pas obligatoire. Elle est au bon vouloir des entreprises. Donc, c'est un marché de dupes, quelque part. Hein. Et surtout, la deuxième grande différence, c'est que les primes, et en particulier cette fameuse prime Macron, elles sont exclues de l'assiette des prélèvements sociaux. C'est-à-dire que, concrètement, elles ne participent pas au financement des retraites et de la sécurité sociale. Et Michaël Zemmour va jusqu'à nous dire qu'on peut même dire qu'elle creuse le déficit des comptes sociaux en soustrayant une partie de la rémunération au financement de la protection sociale. La protection sociale, on rappelle que c'est quand on tombe malade, quand on a une période de chômage, mmh. C'est les salariés qui cotisent. Hein, c'est pas un cadeau. Hein. Donc, la prime, non seulement on n'est pas sûr de retrouver la prime dans l'année qui suit, mais elle n'est pas prise en compte dans ce qu'on appelle les droits contributifs, mmh. Le calcul du chômage et de la retraite. Donc on est vraiment au cœur de la question sociale. Hein.
Oui, oui, oui.
Et donc il nous explique bien qu'il faut faire le lien entre salaire et protection sociale. Donc parce que aujourd'hui il faut savoir que notre système de protection sociale, dont le président Macron dit qu'il veut défendre le modèle, mais il repose sur la répartition du salaire.
Et oui.
C'est-à-dire qu'on a une rémunération du salaire en deux parties. Un salaire direct, celui qu'on touche à la fin du mois, c'est le net, mmh. Et ce qu'on appelle le salaire socialisé, qui passe par les cotisations, qui vont payer donc le chômage, la retraite et les dépenses de santé. Et les deux vont ensemble. Et donc, quelque part, faire penser qu'on va pouvoir faire monter le salaire en diminuant les cotisations, mmh. Si cela se traduit par une baisse des protections sociales collectives, c'est un marché, comme je disais tout à l'heure, de dupes. Par exemple, il donne un exemple très clair. Hein, pendant des années, les gouvernements successifs ont refusé d'augmenter le financement de la Sécu. Et on voit aujourd'hui que les coûts des complémentaires santé, qu'on est obligé de prendre pour être complètement couvert, ils sont largement supérieurs à ce que représenteraient les cotisations maladie pour couvrir le même risque. Mmh. Et c'est pour ça que, à côté, en parallèle des revendications salariales, il y a aussi, en filigrane, la réforme des retraites et la réflexion sur cette réforme des retraites où la décision, enfin en tout cas la décision, la volonté du gouvernement, c'est de faire travailler plus. Donc ça, Michaël Zemmour nous explique bien que c'est un choix strictement politique, qu'on peut très bien faire le choix d'augmenter les recettes de la protection sociale, et c'est un choix politique, et donc c'est un éclairage que nous souhaitions apporter à nos lecteurs et aux auditeurs.
Deuxième sujet à retrouver dans la Marseillaise, on revient sur la métropole de Montpellier qui investit 200 millions d'euros pour sécuriser sa ressource en eau. Montpellier Métropole fait sa révolution.
Oui, disons que c'est la révolution de l'eau. C'est-à-dire que il faut à la fois, évidemment, les collectivités, elles souhaitent surtout s'adapter au changement climatique, et donc il faut préserver la ressource en eau. Donc la décision politique, qualifiée de volontariste par le président de la métropole et maire de Montpellier, Michaël Delafosse, c'est d'investir massivement dans la rénovation de notre réseau, le réseau d'eau potable de la métropole, c'est aussi celui des citoyens.
Est-ce à dire qu'il y a des pertes dans ce réseau ?
Mais évidemment, dans les réseaux, quand ils ne sont pas entretenus, où il y a des pertes, et les pertes en eau sont, il faut à intervalles réguliers intervenir sur les réseaux pour éviter la perte d'eau à cause des fuites. Donc on a ce travail-là qui est notamment un peu facilité aussi parce qu'il y a des travaux, notamment de la ligne 5 du tramway, ce qui permet aussi de faire d'une pierre deux coups, à la fois de construire la ligne et puis de rénover. Évidemment, ça va pas s'en tenir uniquement à ce chantier-là. Donc ça va être échelonné sur la mandature. Et puis deuxième pilier, on a la construction depuis l'année dernière d'une usine de production d'eau potable qui s'appelle Vallée d'eau, qui sera livrée début 2024, nous explique dans la Marseillaise René Revol, qui est maire de Grabès, qui est vice-président de la métropole, délégué à l'eau et à l'assainissement. Il nous dit bien qu'au deuxième semestre, ce dispositif, début 2024, qui vise vraiment à sécuriser la ressource en eau, sera bien opérationnel. Mmh. Pourquoi c'est important et pourquoi il faut faire cette usine ? Parce que la ressource en eau sur le périmètre de la Régie des eaux de Montpellier, ce qui représente à peu près 82% de la population de la métropole, elle vient essentiellement de la nappe phréatique alimentée par la source du Lez. Donc il y a un tuyau qui part des Matelles et qui va jusqu'à l'usine Arago sur la route de Minde à Montpellier. C'est depuis les années 80, Arago traite l'eau. Sauf que quand il y a des difficultés comme une sécheresse, cette eau est mélangée à de l'eau de la source du Lez, ce qui va constituer une sécurisation.
D'accord.
Mais cette capacité, elle est limitée. Donc il faut une nouvelle usine. Il y a aussi la modernisation de la plus grande station d'épuration de la métropole, qui est c'est Maera. C'est situé à Latte. Elle va vraiment augmenter sa capacité de traitement. L'unité de mesure, c'est l'équivalent habitant. Mmh. Aujourd'hui, elle est prévue pour traiter les eaux usées, de 450 000 équivalents habitants. Donc, elle est sous-dimensionnée. Et d'ici 2027, il y aura donc le traitement possible de l'équivalent habitant de l'ordre de 695 000. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est dans une métropole et une région et un département à forte poussée démographique.
Oui, attractif.
Voilà. Donc c'est vraiment tout un chantier. On explique ça par le menu. Et donc il faut se plonger dans cet article et suivre de près les chantiers. Quand il y a quelque chose ou un trou dans la chaussée à côté de chez vous, vous bien regarder les panneaux, c'est certainement un chantier pour réparer le réseau d'eau potable. Et donc c'est une compétence des métropoles. Et c'est des chantiers qui ne se voient pas toujours, parce qu'ils se voient quand ils sont en train d'être réalisés, mais une fois qu'on a rebouché le trou, si je puis dire, ça ne se voit plus. Ça ne se voit pas, mais c'est essentiel et c'est énormément d'argent public investi.
Autre sujet, la Banque alimentaire de l'Hérault tire la sonnette d'alarme. J'imagine que ça ne doit pas être la seule pour la flambée des prix qui met en danger son activité.
Oui, oui, mais tout à fait. Disons que la Banque alimentaire de l'Hérault, qui est très importante, hein, parce que en fait, elle permet, c'est elle qui va chercher toutes les denrées alimentaires qui elle distribue pas directement, elle va distribuer aux associations. On peut parler de Secours catholique, Secours populaire, d'autres associations pour aider les personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Et on sait qu'avec la crise sociale et économique, il y a une explosion des demandes de l'aide alimentaire. Hein. On l'a vu pendant la pandémie, mais même si on n'est plus en pandémie aiguë, l'aide alimentaire est toujours nécessaire. Hein. Donc, il y a une véritable menace. C'est la hausse des tarifs de l'électricité qui font peser une menace sur l'activité des banques alimentaires. Donc, la Fédération française des banques alimentaires, elle réclame au gouvernement d'être inclus dans le bouclier tarifaire énergétique qui a été mis en place. Alors, il faut savoir que concrètement, la Banque alimentaire de l'Hérault, elle compte 3 entrepôts qui sont dotés de chambres froides où sont conservés des produits frais et surgelés. Alors, ce que nous explique Denis Vassal, qui est donc le trésorier de la Banque alimentaire de l'Hérault loue 2 d'entre eux à des prestataires de services. Et ces prestataires de services ne sont pas au tarif, ils sont au tarif non réglementé d'électricité.
D'accord.
Donc évidemment, la crainte, c'est que ces tarifs vont augmenter considérablement. Et on ne peut pas se passer de ces entrepôts. La Banque alimentaire n'a pas les moyens de s'acheter ses propres entrepôts. Donc déjà, ils accusent une augmentation, nous disent-ils, de 13% de hausse pour l'électricité.
Et puis à ça doit se rajouter le pétrole, puisqu'ils livrent les...
Évidemment. Et en plus, il y a aussi les camions frigorifiques, parce que évidemment, elle collecte, mais elle redistribue, c'est-à-dire aux associations de terrain. Donc il y a des allées et venues de 9 camions frigorifiques. Ils réalisent, il faut bien se tenir, 22 000 km par an. Hein.
Ah oui, c'est énorme.
Donc là, ils prévoient aussi une explosion du budget carburant qui a déjà pris 13%. Alors, ils disent que pour novembre et décembre, ça va aller, ça va passer. Mais ils sont en train de faire le budget 2023 et là, ça va coincés et ils sont extrêmement inquiets. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent bénéficier du bouclier sur les tarifs énergétiques et qu'on leur dise « oui, on va couvrir la hausse ». Et ils rappellent quand même que les banques alimentaires se substituent déjà à l'État concernant l'aide alimentaire, alors que si en plus l'État ne les aide pas, ça va être encore plus compliqué pour eux. Petit rappel, la Banque alimentaire de l'Hérault en 2021, et on ne parle que du département de l'Hérault, a distribué 2600 tonnes de denrées alimentaires.
D'accord.
Voilà.
Allez, on reste dans un sujet toujours un petit peu difficile, mais qui met en valeur une belle association et une belle initiative. L'association La Cloche qui débarque sur Montpellier, c'est quoi cette association, Françoise ?
Alors, l'association La Cloche est une structure qui est déjà présente dans 10 autres villes en France. Hein, et le 13 octobre, elle a lancé, ça a été le lancement officiel à Montpellier. C'est le lancement officiel où elle était déjà implantée depuis mars. Hein.
Ouais.
Alors en fait, c'est un dispositif qui propose à des commerçants de poser un autocollant sur leur vitrine qui comporte 3 cloches bleues sur un petit fond blanc, ouais. Assorti de la mention Le Carillon, hein, qui est la structure qui chapeaute le tout. Ouais. Alors, ce logo, ça signifie quoi quand on le voit? Ça veut dire que les commerces qui l'ont, hein, ils proposent à destination des personnes sans domicile, hein, mmh. des services du quotidien. Ça peut être remplir la bouteille d'eau, recharger le portable, changer de la monnaie, faire une photocopie, ouais. et aussi des produits en attente qui ont été prépayés par les clients de ces commerces. Mmh. Donc ça peut être un café, un livre, un jeu de cartes. Ça s'inspire du café suspendu, ouais. qui était pratiqué initialement dans les bars à Naples.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ça démarre doucement, mais ça démarre. Ils sont 14 à Montpellier. Alors il y a des fleuristes, des épiceries, des restaurants, une librairie, un salon de thé, des magasins de jeux de société qui participent à ce programme solidaire. Alors le programme solidaire, c'est Le Carillon. Il y a une dizaine d'autres commerces qui sont en cours d'intégration. L'objectif, évidemment, c'est de rendre service, hein, mais comme nous l'explique la responsable de l'antenne locale à Montpellier, Lila Ruiz de Somo Curso, elle nous explique que l'objectif vraiment fondamental, c'est de recréer du lien social, mmh. entre les personnes, avec les personnes qui sont dans la difficulté, sans domicile fixe, et surtout de changer le regard sur le monde de la rue. Oui. Donc l'association et le réseau Carillon, en fait, hein, qui chapeaute le travail de l'association La Cloche, a édité 2 livrets. Donc il y a un premier livret qui recense les endroits où trouver des services et les produits disponibles. Hein. Mm-hmm. Lui, il est distribué aux personnes en situation de précarité, mais aussi aux acteurs de la vie, des associations, hein, qui sont aussi au plus près, on va dire, de ces personnes. Hein. Mm-hmm. Et puis un second livret qui est destiné aux Montpelliérains, hein, qui sont aussi invités à participer à cette chaîne de solidarité en prépayant les produits qui seront mis en attente et à destination des personnes. Mmh. Donc il y a aussi à venir. Alors, je voulais préciser que pour l'instant, l'association, elle a essentiellement tissé son réseau de solidarité dans le quartier de l'Écusson.
Oui.
Évidemment, parce que c'est là, nous explique-t-il, qu'il y a le plus de bénéficiaires potentiels. Oui, hein, oui. Mais il y a d'autres quartiers qui vont aussi y participer. Évidemment, ils lancent aussi dans nos colonnes un appel au volontariat. Ils disent que c'est bienvenu. Il y a aussi une initiative qui est prise au niveau national, qui va peut-être aussi être mise en place certainement dans les mois à venir. Oui. L'association nous parle de début 2023. Ça s'appelle c'est un programme qui a été baptisé les clochettes. Donc, c'est-à-dire que c'est des initiatives urbaines qui peuvent déjà exister, qui ont été mises en place par des associations de quartier, mmh. comme des jardins partagés, des chantiers participatifs. Mmh. L'idée, c'est d'intégrer à ces lieux, on peut même dire des petits tiers-lieux de sociabilité, bah, des personnes qui sont très isolées et qui sont à la rue, parce que la rue, c'est souvent aussi une... Outre la dureté de la rue, c'est aussi la solitude. Voilà, donc nous expliquons cette belle initiative qui est en train de bien s'installer à Montpellier. Et c'est une belle initiative de solidarité à laquelle tout le monde peut participer, c'est ça qui est bien, de façon même, on va dire, modeste. Mm-hmm. Hein.
En tout cas, voilà. Nous, à Divergence, on ne connaissait pas cette association. Merci à la Marseillaise de nous la présenter. On la recevra pour parler, évidemment, de leur implantation
formidable.
Sur Montpellier.
Ça serait formidable. Ils le diront certainement beaucoup mieux que moi. Et ça serait formidable de leur donner la parole.
Allez, côté culture, et pour finir, le festival 22 Vlajorge, festival un peu mythique sur la commune de Sète.
Oui, tout à fait. Donc, c'est la 8e édition de ce festival qui est en fait, évidemment, entièrement tournée sur l'œuvre de Georges Brassens, natif de Sèvres. Et en plus, il est né donc un 22 octobre en 1921 dans le quartier Révolution, tout un programme. Et donc, évidemment, l'objectif de ce festival, c'est de faire vivre l'œuvre de Brassens dans une ambiance festive, familiale, et puis aussi en l'ouvrant à des nouvelles interprétations. Donc il y a des arrangements musicaux très différents, comme du reggae, du rock, du jazz. Et donc concrètement, en fait, c'est un joli triptyque, hein, ce festival. Il y a des concerts, il y a les repas et les apéros partagés, et il y a les animations. Alors, cette année, ce festival s'est associé à l'Escale à 7, oui, à la Fête de la Musique, au Centenaire Bobby-Lapointe et aux Voix Vives. Donc, on a une cinquantaine de concerts programmés sous un grand chapiteau qui va se planter Place de la République. Il y a aussi, évidemment, les bars, hein, qui vont être des lieux d'écoute de la musique et de partage, l'espace Brassens, devant les Halles et la médiathèque François Mitterrand. Et donc, ce qui est notable, c'est que l'événement est entièrement gratuit.
Et oui.
Donc, c'est vraiment, voilà, en termes d'accès à la culture, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de proposer cette qualité au Sétois et puis à tous ceux qui vont venir aussi profiter de ce beau festival pendant quasiment une grosse semaine.
Oui, on va voir pousser des moustachus un peu partout dans la commune de Sète.
voilà. Donc en plus, bon, il y a beaucoup d'humour et beaucoup de chaleur humaine. Mmh. On en a bien besoin. Alors le festival, pour la petite ou la grande histoire, il commence le 22 octobre, comme je l'ai dit, parce que c'est la date de naissance de Georges Brassens. Il s'achève un 29 octobre parce que malheureusement c'est la date de son décès en 1981. Il nous a quittés, il avait à peine 60 ans, mais il reste évidemment, et son œuvre reste extrêmement vivante et revivifiante.
En tout cas, toutes ces informations sont évidemment à retrouver dans l'édition de la Marseillaise de cette semaine. Je le rappelle, c'est à paraître ce vendredi dans tous les bons kiosques.
Et puis, sur Divergence aussi.
Et sur Divergence FM aussi, absolument. Et puis quant à nous, Françoise, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Avec un très grand plaisir.
Merci Françoise.
Beaucoup. En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.